La vie engendre la vie et il n'y aura pas de fin. Je dédie ce texte à mes nombreux amis taillardiens avec lesquels j'ai été heureux de cheminer depuis plusieurs décennies, chemin que je suis heureux de poursuivre aussi longtemps que le ciel le voudra. Certains d'entre eux, hélas, sont morts, surtout avec la pandémie qui nous accable. Le père Henri Madelin en a été la première victime en avril 2020, Yves Barthes et Georges Ordonneau les dernières, il y a peu. Je prie particulièrement pour eux en ce 10 avril 2021, anniversaire de la mort de Teilhard de Chardin, en grande fraternité spirituelle en Jésus-Christ. En exergue, si tu savais le don de Dieu, de l'évangile de Saint Jean, chapitre 4. La vie, un cadeau. Nous autres, êtres humains doués de raison et de sentiments, n'avons pas encore bien compris le merveilleux cadeau que nous fait la vie. Lorsque nous venons au monde, nous disposons d'un corps sensible, capable de sentir et de penser, avec des caractéristiques propres qui procurent du plaisir et des élans, des désirs et des émotions, des rêves et des rêveries. Des peines et des douleurs nous assaillent également. Mais cela n'élimine pas complètement le bonheur d'être en vie et de tenir à la vie. Certes, nous savons que progresser en âge et en sagesse, en subvenant à nos besoins, récompensés de nos efforts par d'intimes signes d'allégresse, contribue de différentes manières au bonheur d'être en vie. Jouir de l'existence et en être conscient, avancer, trouver du goût aux multiples satisfactions de tous ordres, au-delà de nos besoins élémentaires qui procurent de simples plaisirs, boire, manger, dormir, marcher, respirer, chanter, danser, rêver, nous pouvons nous émerveiller devant la beauté de la vie et de l'amour, ou la bonté de l'amitié, ou de l'incroyable intelligence de l'univers et du génie des hommes pour progresser dans leur conquête de l'espace et du temps. Sans doute, la vie ne va jamais sans difficulté. Les obstacles, les souffrances de toutes sortes, la maladie, les accidents, les pandémies, la mort, entravent la possibilité d'en jouir indéfiniment. Aussi arrive-t-il que l'on perde passagèrement ce sentiment latent de bonheur de vivre, et nous regrettons alors de ne pas l'éprouver plus souvent ou plus longtemps. Mais malgré les fatigues et les peines, les souffrances et la mort, on peut savourer des moments de sa vie, se réjouir de sa beauté, chanter qu'elle vaut bien la peine d'être vécue et être conscient du merveilleux cadeau que l'on reçoit chaque jour qui passe, invités que nous sommes au festin du monde. Un monde que le génie des hommes a rendu au cours des siècles de plus en plus facile à habiter. Dès notre enfance, nous comprenons que la vie se déploie sur deux plans, visible et invisible. Sur le plan matériel et sur le plan spirituel, concret et abstrait. Notre esprit, cette faculté de comprendre aisément, dont la manifestation la plus évidente, mais non la seule, est la parole, nous permet de nous exprimer dans une langue donnée, d'une manière personnelle, selon des circonstances et des motivations appropriées. Ce sont ces capacités d'épanouissement physique, spirituel et moral, offerte aux petits d'hommes de connaître, de comprendre, de choisir, d'avancer dans la vie qui nous permettent de grandir, de réfléchir, de se comporter en société et de s'épanouir, d'aimer et d'être aimé, d'être heureux de vivre, c'est-à-dire de déployer notre être tout entier, physique et moral, dans l'espace et le temps, tout en sachant endurer d'éventuelles souffrances, même dans des conditions extrêmes. Exactement comme un arbre qui grandit et s'élève dans l'espace et dans le temps, le vent et la pluie, dans l'environnement qui est le sien, pour s'épanouir majestueusement en couronne sous le soleil. Ces capacités d'évolution et d'adaptation, d'endurance, de bonheur et de souffrance sont universelles. Tout être vivant, et plus particulièrement tout être humain, les éprouve dans sa vie. Il est tantôt heureux, tantôt malheureux, et lui seul peut, parmi tous les êtres vivants, les vivre à un tel degré d'intensité, d'émotion, d'intelligence et de persévérance qu'il finit par se poser des questions. La nature autour de lui, la terre et la mer, l'air et les nuages, les plantes, les fleurs et les oiseaux, semblent avoir été faits pour l'accueillir et non pour la servir. Et même les animaux, ses frères, selon saint François, qui souvent l'égalent ou le surpassent en acuité des sens, d'intelligence ou de violence, ne connaissent pas le bonheur de la conscience réfléchie, la joie de connaître et de comprendre les tenants et les aboutissants d'une action, le bonheur de la fusion passionnelle de l'amour, ou la satisfaction de la pensée poétique, le sens et la signification des êtres et des choses, qui sont le propre de l'homme et de la femme. Les animaux ne peuvent réaliser, comme nous, en pleine conscience, le bonheur de vivre, d'exister et de bâtir leur vie, en complet épanouissement de soi-même, bâtir leur vie comme une œuvre d'art complexe et accomplie. Les animaux ne savent pas se réaliser, se construire, grandir dans un but librement assumé comme nous, éprouver le bonheur d'exister en pleine intelligence avec le monde, s'accomplir en grande harmonie avec le cosmos. Être, tout simplement, personnellement. Car nos facultés spirituelles sont bien plus riches que celles des autres vivants. Notre intelligence du monde nous situe à un niveau de conscience réfléchie. Non seulement nous sentons et ressentons, mais nous savons et nous savons que nous savons. Nous pouvons donc mieux comprendre, évaluer, réfléchir, apprécier, rectifier, calculer, bref, progresser dans une voie qui n'est pas que physique et matérielle, mais surtout dans une voie morale et spirituelle. Une certaine distance et une prise de conscience nous confèrent la faculté d'être avec le sens des responsabilités à l'égard du monde tout entier. Aucun autre être vivant ne possède à l'égal de nous autres êtres humains, hommes et femmes, stratèges et tacticiens de notre quotidien et de notre devenir, cette capacité de dépassement volontaire. C'est ce qui fonde notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et de la société. Cela nous confère notre dignité. C'est dans un acte d'amour que nos géniteurs nous ont fait ce merveilleux don de la vie, cela est sûr, même si ce n'est pas toujours en pleine conscience. Tout petit homme qui vient au monde est le résultat d'un acte d'amour entre deux êtres qui lui transmettent ce qu'ils ont eux-mêmes reçu de l'échange dans l'amour de leurs propres parents. Ce bien précieux, la vie, avec la capacité de la donner à notre tour, nous en sommes tous bénéficiaires et dépositaires, transmetteurs capables de la donner nous aussi à notre tour, par un geste d'amour renouvelé, volontaire et assumé, hommes et femmes unis dans un acte d'amour. Ainsi la vie et l'amour paraissent, dès l'origine, indissolublement associés dans un puissant processus énergétique de perpétuation, de progression et d'évolution qui les propulse dans une création renouvelée indéfiniment. Bénéficiaires de cette énergie, nous la portons à notre tour en nous comme un héritage génétique puissant, cela universellement, tous les êtres humains en sont dotés. Leur geste d'amour perpétue la vie. Ainsi, la vie engendre la vie, et il n'y aura pas de fin, dit François Chang. Nous, coopérateurs de la création. Ainsi, en nous unissant, nous devenons coopérateurs de la création universelle. Nous pouvons mieux comprendre notre lien organique au monde et avec l'univers. Nous réalisons que pour se perpétrer, l'énergie vitale passe par nous tous, sans exception, grâce à l'amour toujours renouvelé. La vie transparaît alors avec énergie dont nous sommes tous porteurs et dispensateurs, unis dans une même destinée. La vie, fruit de l'amour. L'amour, don de la vie. La vie, indissolublement associée à l'amour. Pas de vie possible sans amour et pas d'amour possible sans vie. Vie et amour, une seule et même source d'énergie en marche, universellement. Les êtres vivants évoluent et contribuent à peupler le monde dans un même élan moteur, multiple et multiplicateur. La progression et l'évolution du monde se font en passant par nous, même si c'est à l'insu de la plupart d'entre nous, grâce à nous, à cause de notre implication et de notre agrégation avec une énergie qui nous dépasse. Toute vie se déroule dans le temps et s'inscrit dans une histoire, l'histoire des hommes et du monde, qui avance irréversiblement, impulsée par une extraordinaire énergie visible et invisible, composée de vie et d'amour tressés. Parfois, cela se déroule même dans la violence diffuse ou apparente. Nous sommes souvent dépassés et contrecarrés dans nos projets, la vie pouvant engendrer des conflits comporter des revers, la maladie, la souffrance et la mort. Mais la vie continue toujours, envers et contre tout, grâce à l'amour qui l'a fait avancer et rejaillir indéfectiblement. Aussi bon an, mal an, depuis des millénaires, vivent et meurent des hommes et des femmes sur la terre, dans des pays, des continents, sur des îles lointaines, à différentes époques, et dans des civilisations qui vivent et meurent irrémissiblement. Une histoire commencée il y a plus de 14 milliards d'années au Big Bang, formidable poussée d'énergie cosmique qui se transmue dans le monde à travers une immense diversité biologique en constant renouvellement. L'histoire se perpétuant et se développant sans que paradoxalement l'on ne sache ni vers quoi, ni pourquoi on avance. D'où une foule de questions qui interpellent tout être humain doué de sensibilité et de raison sur le comment et le pourquoi. Sur le sens de la vie, faute de ce goût de vivre que nous éprouvons chevillé au corps dès notre plus tendre enfance, la vie se serait déjà éteinte et probablement à jamais. La vie demeure gagnante et continue à se développer en avançant de plus en plus complexe, en s'enrichissant de plus en plus d'une formidable énergie d'amour, d'intelligence et de connaissance, en progressant inexorablement et en engendrant ce que Teilhard a appelé la noosphère ou sphère spirituelle, par analogie avec la biosphère ou l'atmosphère, conditions indispensables à la survie de notre espèce sur notre belle planète bleue. La noosphère, dit Teilhard, est la nappe pensante du groupe zoologique humain au-dessus de la biosphère. Nous savons maintenant que nous appartenons à un système cosmique, le système solaire, une galaxie parmi des milliards de galaxies qui tournent au-dessus de nos têtes, au-delà des étoiles. Nous habitons la minuscule planète Terre, où, à la suite de reconcours d'improbables circonstances, la poursuite de la vie a été possible, impulsée il y a quelques milliards d'années. Qu'il faut une biosphère à température tempérée et constante dans un milieu viable ou atmosphère, qui permet l'émergence de la vie grâce à la présence de l'air et de l'eau. Condition première pour que la matière se mette en mouvement. L'oxygène, combustible indispensable à tous les êtres vivants, est présent dans ces différents éléments de la vie. La vie des hommes sur Terre n'aurait commencé qu'il n'y a que quelques millions d'années au bout de la longue chaîne de l'évolution du vivant. On peut dire que les humains l'assument désormais avec des sentiments de responsabilité collective, de plus en plus solidaires les uns des autres, depuis peu. Ils ont compris tout récemment qu'ils sont, que nous sommes, tous ensemble, embarqués sur un seul et même vaisseau pour un temps relativement court, solidaires et responsables, individuellement et collectivement, nous sommes tous embarqués sur un seul et même vaisseau, la planète Terre, formé depuis 4 milliards d'années pour voguer encore autant de temps si possible. Et nous avons compris qu'il faut en prendre soin pour que le voyage puisse se poursuivre, et surtout si nous ne voulons pas périr sous les effets de nos néfastes et inconscientes dilapidations. Nous recevons donc, en venant au monde, un magnifique cadeau personnel, un cadeau qui nous vient de loin, d'on ne sait d'où, de qui, pourquoi ? Un cadeau qui semble venu du ciel, exaltant sentiment, hérité de quelque chose d'aussi incommensurable et d'aussi mystérieux, d'aussi universel aussi, sans en connaître ni l'auteur ni la motivation. Comprendre que l'on est réuni dans un projet qui semble nous être proposé personnellement par un être supérieur, antérieur à tout, le maître de l'univers. Comprendre, hélas aussi, que la violence peut se réveiller soudain en nous et faire de nous un prédateur et un ennemi mortel. La mort peut nous couper de nos racines et la conscience nous interpeller dès nos premières réflexions. Nous découvrons ainsi combien nous sommes complexes, vulnérables et imprévisibles, et nous ressentons un besoin de protection tout en nous considérant inviolables dans notre personnalité profonde, digne de respect et souvent même d'estime. Le religieux pour nous aider à vivre. Ainsi sont nés, semble-t-il, dans les sociétés archaïques, ces pratiques d'exorcisation qui ont poussé nos ancêtres à chercher dans une direction métaphysique pour résoudre le problème de la vie, dès l'origine, dans le religieux des explications mystérieuses et à inventer des mythes. Les mythologies, les pratiques incantatoires et expiatoires de tous les temps, dans toutes les civilisations, sont nés ainsi dès l'origine un peu partout pour chercher sens et apaisement à nos angoisses et à extirper nos violences. Selon les lieux et les époques, les religions se sont implantées un peu partout sur ces interrogations, ces inquiétudes, ces invocations à plus grand et plus fort que soi, dans nos espoirs et nos implorations aussi, dans le sens du sacré donc, ressenti depuis plus de 50 000 ans, comme en témoignent les nombreuses peintures rupestres, préhistoriques, retrouvées en Afrique, en France et ailleurs. En note, Emmanuel Anati nous dit « Depuis ses débuts, il y a plus de 40 000 ans, l'Homo sapiens a développé un ensemble de capacités intellectuelles très particulières. Création de l'art visuel, développement d'un langage articulé et structuration d'une religion avec des archétypes et des paradigmes qui se répètent depuis dans toutes les religions. La dynamique de la pensée religieuse suit une ligne cohérente qui, depuis l'origine, nous conduit à la réalité contemporaine. Ceci est dit dans « La religion des origines » publié chez Bayard Press. Notre époque moderne, qui se veut plus intelligente que toutes celles qui l'ont précédée grâce à l'esprit scientifique qui la caractérise, se prétendant désormais affranchie de ses fantasmes mythologiques, a essayé de remiser la religion au rang des mythologies caduques, sans distinction aucune. La crise du religieux est bien une donnée fondamentale de notre temps, déclare René Girard, qui nous aide à voir plus clair dans les agissements humains. Car nous sommes une espèce spirituelle qui cherche un sens à sa vie et des réponses à nos questions angoissées, fondées sur notre intellectualité et notre dignité même et ce sentiment d'inviolabilité personnelle qui nous habite. Et cela même si l'on se prétend athée ou agnostique, posture religieuse en soi, dans leur propre négativisme. Aussi, la vie paraît toujours un mystère. Un merveilleux mystère, un mystère que la science essaye de déflorer de plus en plus, un mystère auquel la religion prétend donner sens. La vie demeure un merveilleux présent d'un être supérieur. « Ah, que c'est beau la vie !» chante le poète. Et il exprime ainsi, sans s'en douter, une vision religieuse du monde. C'est la mienne. Oui, la vie est belle. C'est beau la vie, et encore plus, infiniment plus, depuis que le message christique qui nous en a donné le véritable sens, en nous ouvrant à l'incroyable révélation qui fait de nous des enfants de Dieu. Non, le Créateur n'est pas un despote vindicatif et rageur, mais un Père aimant qui nous protège et nous aide, et nous accompagne dans l'extraordinaire aventure à laquelle nous sommes invités, sans pour autant éprouver la plupart du temps ni de la gratitude, ni de la reconnaissance. Ma perception du monde est celle d'un enfant né il y a près d'un siècle en terre d'Égypte, au sein d'une famille italienne, à Alexandrie, port de la Méditerranée orientale, réveillé depuis peu de sa torpeur séculaire par des Européens entreprenants. Une fade monarchie d'origine albanaise y régnait depuis quelques décennies, discrètement doublée d'une occupation administrative et militaire anglaise. La France, l'autre grande puissance hégémonique de l'époque, dominer le pays par sa culture, par l'esprit plutôt que par les armes, ce qui est bien mieux. J'en ai largement bénéficié. J'ai pu grandir heureux dans les deux cultures, entouré d'un frère aîné et d'une sœur cadette, de nombreux camarades de différentes nationalités et religions, tous plus ou moins éclairés, sciemment ou inconsciemment, par les paroles écrites dans les livres en général et le livre saint en particulier. J'ai eu la chance de recevoir à ma naissance, un dimanche des Rameaux, dans ma famille italienne catholique romaine, mon baptême avec mon prénom. Une saine éducation chez les pères franciscains jusqu'à ma première communion à l'église du Sacré-Cœur d'Alexandrie a façonné mon enfance italienne à Alexandrie, ville cosmopolite par excellence. Ensuite, elle s'est poursuivie au Caire, où ma famille s'était réfugiée à partir des années 1940. La guerre faisant rage à nos portes, chez les pères jésuites, francophones si ce n'est français, au collège de la Sainte Famille, pendant mon adolescence. Celui-là même où, 35 ans plus tôt, Teilhard avait enseigné la physique-chimie de 1905 à 1908. Un passage pendant quelques années par le scoutisme catholique, où j'ai eu la grâce d'avoir le père Maurice Zundel comme aumônier, m'a fortement marqué pour la vie. Le jour de mes 20 ans, j'ai perdu la personne que j'aimais le plus au monde, ma mère, fauchée à l'âge de 47 ans, en un sinistre accident de voiture. Sainte et courageuse maman, excellente pianiste, elle avait amoureusement élevé ses trois enfants en des temps difficiles. Cela a contribué à la décision de quitter mon Égypte natale pour venir bâtir ma vie en France. Mon frère aîné avait choisi, un an auparavant, d'aller faire des études de médecine aux États-Unis, où il était censé appeler notre famille. L'Italie, dévastée par plus de 20 ans de fascisme et la guerre, n'était plus envisageable. Je peux donc dire que malgré les hostilités à nos portes, les forces de Rommel se battaient au désert de Libye, j'ai eu la chance d'être élevé chrétiennement en pays musulman, dans un milieu cosmopolite et polyglotte, sans entrave majeure. En octobre 1949, donc, j'ai préféré la France pour entreprendre mes études supérieures en Sorbonne. Dès le mois de juillet 1952, j'y ai fondé, avec Marthe, mon épouse, une famille vite nombreuse. 4 enfants en 6 ans, heureux désormais de vivre dans ce pays que j'aimais avant même de le connaître. La France, fille aînée de l'Église, où je mène depuis plus de 70 ans une vie active avec bonheur, grands-parents heureux de 7 beaux petits-enfants, sains de corps et d'esprit. La Bible, socle des 3 religions monothéistes. La Bible donc, l'Ancien et le Nouveau Testament, était la référence implicite ou explicite des différents modes de référencement du milieu plus européen qu'égyptien dans lequel j'ai grandi pendant les 20 premières années de ma vie en Égypte. Composé de récits mythiques, épiques ou historiques, dont certains importants s'étaient déroulés en cette même terre d'Égypte où je vivais, de listes de lois et de généalogies fastidieuses, mais de magnifiques poèmes aussi, de textes de sagesse, de prophéties, de paroles visionnaires, de prières, d'exhortations diverses. La Bible était pour tous, même les incroyants, le mât au pied duquel s'agrégeaient nos découvertes personnelles de l'histoire. Enfant, on nous avait assuré que c'est Dieu lui-même qui parlait à travers ces textes issus de différentes traditions orale du peuple juif, et que Jésus, dont le Nouveau Testament relatait la vie et les enseignements, était le Messie annoncé par les prophètes depuis plus de 4000 ans. Jésus, né il y a 2000 ans, dans une modeste famille juive en Galilée, avait pendant quelque 30 ans poussé en âge et en sagesse, et vécu très simplement au milieu de son peuple, en cette terre sainte de Palestine occupée en ce temps-là par les Romains. À l'âge de 30 ans, il avait mené une vie errante et prêché d'une manière prophétique la bonne nouvelle, s'identifiant lui-même à la parole qu'il prodiguait avec ténacité, en forme de parabole surtout. Il disait superbement Je suis la voie, la vérité, la vie. Son enseignement était nouveau, iconoclaste parfois, et avait déplu à plus d'un de ses contemporains. Aussi avait-il été mal compris en son temps, accusé injustement, mal jugé, finalement condamné et mis à mort sur la croix. Cela avait eu lieu sous Ponce Pilate, gouverneur romain de Judée, il y a plus de 2000 ans. Jésus avait été jugé, torturé, accusé et couronné d'épines en signe de dérision pour ce roi des Juifs tourné en ridicule. Il avait été crucifié dans des conditions ignobles, sous les yeux éplorés de sa mère et de très peu d'amis restés fidèles. Ainsi, il m'apparaissait que l'histoire la plus belle du monde, un enfant né dans une crèche entre un âne et un bœuf, signalé par l'étoile des bergers à des rois mages, devenait l'histoire la plus triste du monde, celle d'un innocent trahi et renié par ses amis, accusé injustement et mis à mort ignominieusement. Sa mère se tenait au pied de la croix où agonisait dans d'atroces souffrances le plus innocent des hommes qui implorait son Père du ciel. « Abba, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais 3 jours après sa mise au tombeau, Jésus était ressuscité des morts et avait apparu aux saintes femmes d'abord et à plusieurs reprises à ses disciples incrédules ensuite. Cela s'était passé à Jérusalem, ville sainte pour les 3 religions que le livre saint, croyais-je, réunissait désormais en une même foi monothéiste. Réunissait vraiment ? Pas si sûr. Hélas. Incroyable histoire, douloureuse même, qui suscitait surtout en moi de la commisération. Aussi, sans m'en douter, étais-je plus proche d'une croyance mythologique que de la véritable adhésion mystique à un événement extraordinaire qui devait changer le monde. Encore moins d'une communion à la personne mystérieuse de l'homme-dieu, lumière du monde, auquel j'adhérerai par ma foi mieux comprise plus tard, bien plus tard. On m'avait enseigné que Jésus était vrai homme et vrai Dieu, qu'il avait bel et bien vécu comme nous, avec nos bonheurs, nos sensations, nos soucis et nos peines, qu'il était sans péché, avait fait des miracles et pardonné à des pécheurs, mais surtout qu'il était ressuscité, qu'il avait vaincu la mort et qu'il siégeait à la droite du Père en attendant de juger les vivants et les morts. Je ne trouvais vraiment pas logique cette histoire singulière. Comment peut-on admettre, me disais-je, que Dieu lui-même se soit fait homme à un moment propice de l'histoire, qu'il ait pris un corps d'homme comme nous, créatures limitées et fragiles, et qu'il se soit laissé piéger aussi misérablement devant les siens, sans aucune défense, pratiquement victime offerte, auto-désignée, malmenée, insultée, mise à mort, avec comme seule réaction une ultime prière à son Père pour demander le pardon de ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour me confirmer dans mes doutes, dont je me drapais de mes nouvelles certitudes et vérités scientifiques, n'avait-elle pas été démontrée que l'on pouvait se passer de l'hypothèse de l'existence de Dieu ? La religion n'était que opium du peuple. Dieu était mort et maintenant l'on pouvait affirmer en toute quiétude avec un grand savant, Jérôme Monod, que l'évolution du monde n'était que l'effet du hasard et la nécessité. Jacques Monod, biologiste et biochimiste français de l'Institut Pasteur, lauréat en 1965 du prix Nobel de médecine, auteur en 1970 d'un essai intitulé « Le hasard et la nécessité ». La foi, un présent divin. Plus tard, bien plus tard, grâce à la lecture de quelques bons auteurs dans mes 2 cultures, l'italienne de mon enfance, avec Dante et François d'Assise principalement, puis à l'adolescence, la française, avec Victor Hugo, Peggy, Claudel, Mauriac, Georges Duhamel, Bernanos, Camus, Saint-Exupéry, Malraux et quelques autres, grâce également à des amis éclairés, de beaucoup de réflexions et de méditations personnelles et d'échanges amicaux, j'ai compris, il n'est jamais trop tard, que le livre des Saintes Écritures, la Bible, devait être regardé essentiellement comme une anthropologie, car c'est surtout des hommes qu'elle traite et non seulement de Dieu. Des hommes et des femmes du peuple juif, leurs tribulations, leurs angoisses, leurs conflits et leur incessante recherche de la vérité. Il m'a fallu lire et relire les évangiles, revenir à l'immense poème de Dante, la Divine Comédie, et au merveilleux Poverello d'Assise, à Pascal et René Girard, et surtout le grand Teilhard de Chardin et quelques autres sommités pour me persuader vraiment et comprendre combien le véritable sujet d'importance est l'homme, l'espèce qui embrasse la femme dans toute sa dignité et sa capacité d'intellectualisation et de conscience qui l'élève grâce à son esprit au-dessus de toute la nature vivante. Comment l'homme doit apprendre à évoluer de la barbarie dégradante et avilissante à une humanisation progressive et éclairante. Au bout de ce long chemin laborieux de ma vie, chargé de familles nombreuses, me revenaient en mémoire les sermons enflammés du père Maurice Sandel. Jeune scout, je n'avais pas vraiment compris toute l'éclatante profondeur du Dieu d'amour qu'il prêchait d'une voix émouvante. Quel émerveillement de retrouver ces livres devenus célèbres désormais. Le magnifique évangile intérieur, le splendide poème de la Sainte Liturgie, et de mieux comprendre pourquoi la célébration de la messe, plus qu'une occasion de rencontre communautaire, est un rappel sacramentel du dernier repas du Christ pour rendre grâce à l'Éternel dans la prière et consacrer la Sainte Eucharistie, célébration du Christ ressuscité. Il est grand le mystère de la foi. Les évocations de Zendel, la magnifique rencontre avec la Samaritaine au puits, me revenaient en mémoire. Il lui dit à propos de la soif à étancher, « Si tu savais le don de Dieu, Dieu est une source qui jaillit au plus intime de nous en vie éternelle. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et en même temps que l'homme est esprit et que l'homme est appelé à s'élever en esprit et qu'il est par conséquent de nature divine, l'homme a une vocation de Dieu, disait Zendel, et Dieu vient à nous silencieusement. Dieu vient à nous au plus intime de notre cœur. Le lavement des pieds du Jeudi Saint, nous disait-il, est un acte d'amour d'une modestie exemplaire. Il en parlait avec une intense émotion, de même que du dialogue de Jésus sur la croix avec le bon larron pour l'accueillir au paradis. J'ai mieux compris les mots incandescents que Zendel prononçait toujours dans un grand élan mystique. L'évangile de Jésus transparaît comme une grande confidence du Christ, où Dieu est Dieu parce qu'il a la transparence d'une enfance, où toute espèce d'appropriation est impossible, où le regard est toujours un regard vers l'autre, où la personnalité, où le « moi » n'est qu'un pur et infini altruisme, disait Zendel. Le Christ, le Verbe fait chair. Ce Christ serviteur et souffrant comme nous, qui s'offrait dans sa passion et qui est ressuscité pour nous inviter à le suivre sur la voie de l'amour et de la sainteté, ce Christ éternel dont je comprenais enfin pourquoi il était nécessaire qu'il prît corps, qu'il se présente comme fils de l'homme, l'un d'entre nous, pour mieux se faire comprendre de nous, dans notre langage. J'ai appris à le regarder différemment, intérieurement, non seulement avec ma raison et mon cœur, mais en mon âme, en esprit, en conscience, en communion. Le Dieu Tout-Puissant et dominateur de mon catéchisme enfantin a laissé la place à un Dieu en continuelle quête de l'amour de chacun de nous. Un Dieu d'amour. La poésie m'a ouvert des portes que les discours philosophiques n'avaient pas réussi à franchir. la véritable importance de la poésie du point de vue général, dit Teilhard, est vitale. Elle a toujours été vitale. Je crois qu'elle est à la base de l'élévation de l'homme et de toute son évolution. Le sens poétique inné chez l'homme a même certainement été à la source de toute la religion. C'est ce que nous dit Teilhard dans une lettre à sa cousine. À la suite de deuils d'être cher, proches et intimes, j'ai aussi mieux compris l'extraordinaire don de Dieu, l'incarnation du Verbe de Dieu. Le Verbe fait chair, comme étant l'expression humaine de son amour pour nous, et ainsi donner sens à nos souffrances et à la mort, nous inviter à l'adoration de Dieu, l'être suprême. La lecture approfondie de Teilhard m'a convaincu que le Christ est à l'origine et au sommet de l'évolution. Il est l'alpha et l'oméga, comme dit saint Jean. Le Christ cosmique, qui m'a ouvert l'esprit et l'âme, venait dissiper mes doutes et conforter mes nouvelles certitudes. J'ai compris avec Teilhard que la solution générale pour atteindre le bonheur de croissance passe par l'étroit temps de la personnalisation, se centrer d'abord, se décentrer ensuite et se surcentrer enfin dans la direction d'un humanisme chrétien ou dans celle d'un christianisme superhumain au sein duquel chaque homme comprendra un jour qu'il lui est possible, à tout moment et en toute situation, non seulement de servir, ce qui n'est pas assez, mais de chérir en toutes choses, les plus douces et les plus belles, comme les plus austères et les plus banales, un univers chargé d'amour dans son évolution. Arrivé à l'âge de la retraite, je me suis totalement investi dans la diffusion de la pensée éclairante de Teilhard, ce grand prophète de l'espérance, en m'agrégeant à la fondation et à l'association des amis de Teilhard, je m'y suis fait de nombreux amis avec lesquels j'ai été heureux d'organiser des colloques, des conférences, des séminaires, des publications, des visites sur ses pas. Un dialogue enrichissant se poursuit depuis plus d'un quart de siècle, illuminé de quelques belles rencontres. Aussi, pour moi, aujourd'hui, le Christ, en prenant corps de la Vierge Marie, en affirmant que Dieu est amour, en nous invitant à nous aimer les uns les autres, est venu par sa personne et sa vie même donner cette merveilleuse assignation à l'aventure humaine. Ses paroles de vérité et d'amour ont transformé ma vie. Elles guérissent les blessures les plus profondes, libèrent des cercles infernaux de l'insatisfaction, de la rage et des lamentations, nous dit le pape François. C'est l'évangile de saint Jean qui m'a permis de mieux comprendre cette ouverture de l'âme et de l'esprit en proclamant dès l'entrée « Au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu et le Verbe s'est fait chair ». Le Christ est le Verbe de Dieu, l'envoyé de Dieu pour signifier aux hommes leur dignité de fils de Dieu. Il est le prototype par sa résurrection et son ascension d'une humanité qui retrouve à sa suite sa dignité première de fils de Dieu. Le Christ est venu du Père et il est retourné au Père. Son émanation du Père est son incarnation. Aussi ai-je finalement compris qu'en vérité, le véritable cadeau qu'il nous a fait, c'est sa personne lumineuse en nous, en nos cœurs. Sa présence en nous est déjà par elle-même la réalisation du royaume. Le Christ s'est uni à la créature d'une manière nouvelle, ou plutôt, il l'a uni d'une manière nouvelle à soi, bien qu'il soit Dieu et homme. Il n'est pas un être double, mais un seul Christ, un cependant, non par le changement de la divinité en chair, mais par l'assomption de la divinité en Dieu, dit saint Athanase, père de l'Église. Le retour du Christ au Père, son ascension, n'est autre que l'invitation à nous humaniser et à nous spiritualiser pour devenir comme lui. Nous voilà désormais investis par lui pour diviniser le monde. Les deux notions, incarnation du Verbe et plénitude de l'homme en Dieu, sont étroitement solidaires dans la marche de l'humanité vers la lumière. Teilhard nous appelle à une montée vers le point oméga, pour qu'on soit éclairé, pour que l'on prenne conscience du merveilleux don qui nous est fait, pas seulement celui de la vie, mais celui de l'intelligence de son sens, et donc de la noblesse de nos origines et de l'appel vers nos destinées. Nous sommes invités à nous élever en esprit, dans l'émerveillement de la beauté divine, entreaperçue à travers la beauté du monde. Teilhard peut écrire tout simplement « La création était un grand livre ouvert à la recherche et à la contemplation des hommes. Nous avons soif de voir et de connaître. Dieu est pour nous l'éternelle découverte et l'éternelle recherche. Nous marchons conscients d'avoir le monde à diviniser. » Ainsi apparaît le mystère de l'incarnation, suprême élévation du côté de l'humanité, dans une suprême démission de soi, dit Zendel. Cela signifie en termes de vie spirituelle que le Rédempteur réalise en sa personne la plénitude du règne de Dieu à faire vivre en nous.